Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui chaque semaine vous parle de l'économie mondiale, de ses mécanismes parfois complexes, comment l'activité se développe, comment on crée de la richesse, mais aussi comment on vient en aide à celles et ceux à qui manque l'essentiel, l'alimentation. Le combat contre la faim dans le monde au cœur d'un sommet international cette semaine à Paris, un sommet Nutrition for Growth, nutrition pour la croissance, ouvert par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Aujourd'hui, une personne sur 11 souffre de la faim. En Afrique, c'est une personne sur 5. Chez les enfants, la malnutrition représente une tragédie, une faillite morale. Dans le même temps, des millions de personnes sont en surpoids à cause d'une alimentation transformée, riche en sucre et graisses saturées, mais pauvre en nutriments essentiels. Cette double menace fragile nos systèmes de santé, creuse les inégalités et freine le développement durable. La lutte contre la faim est un défi mondial qui demande l'engagement de chacun à tous les niveaux et une mobilisation politique et financière sans précédent pour transformer durablement nos systèmes alimentaires. Un monde sans faim n'est pas une utopie, c'est un choix.
Un monde sans faim n'est pas une utopie, c'est un choix, a dit le secrétaire général de l'ONU dans ce message aux représentants de 75 pays, agences de développement, fondations, entreprises, tous invités par la France et son président Emmanuel Macron.
L'insécurité alimentaire est d'abord accrue par les guerres, les conflits. C'est exactement ce qui s'est passé avec la guerre d'agression russe en Ukraine, nous nous en souvenons. Elle a profondément perturbé la capacité à nourrir une partie de la planète, à fournir les engrais, à libérer les céréales. Les conflits créent la faim, mais la faim crée les conflits. Et s'il faut parfois se réarmer, ce que nous sommes en train de faire pour essayer de préserver la paix, et donc le combat que nous menons tous ensemble contre la malnutrition et contre la faim, est un combat de paix.
La faim et la guerre en Ukraine, à Gaza, au Soudan, en RDC, entre autres. Le tout dans un contexte de raidissement géopolitique avec les incertitudes sur le financement de l'aide au développement, y compris l'aide américaine jusque-là massive dans certains pays. Comment mieux nourrir le monde? Comment financer l'aide alimentaire? Quels sont les exemples à suivre? On en parle cette semaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Entretien dans quelques instants avec le patron du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Et puis, nous serons tout à l'heure avec un industriel de l'agroalimentaire, le Belge Georges-Arthur Forest, à la tête d'une entreprise familiale qui est installée en République démocratique du Congo depuis plus de 100 ans. Il publie un ouvrage intitulé « L'Afrique peut nourrir le monde ». Nous l'avons reçu cette semaine dans nos studios.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
sur RFI.
Et d'abord, un reportage choc pour mieux comprendre les enjeux en matière de malnutrition. Nous allons dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec une vulnérabilité très forte aux catastrophes climatiques. Il s'agit de Madagascar, plus précisément le sud de l'île, touché par la famine, inquiétante pour des milliers d'enfants. Notre correspondante, Sarah Teto, s'est rendue dans un CRENI, un centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensif, considérés comme des lieux de la dernière chance pour ses enfants et leurs parents.
Félix gît sur un matelas en plastique du CRENI. Le petit garçon de 17 mois a les yeux ouverts mais le regard absent. Immobile, il n'a même plus la force de cligner des yeux pour chasser les mouches trop envahissantes. Il y a une semaine, explique sa maman, il s'est évanoui.
Il est tombé sur le sol. Ensuite, il a vomi et a eu la diarrhée. Je suis allée voir une tradipraticienne, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors je l'ai amené à l'hôpital. Il était toujours inconscient et on nous a admis ici. On est épuisés.
L'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère et de multiples escarres sur le corps. S'il suit le traitement de bout en bout, il aura 60% de chances de s'en sortir, indique l'infirmier à son chevet.
Il était très 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 faible au moment qu'il était venu ici, parce qu'il n'a pas mangé et il était atteint de la diarrhée. On lui a donné de l'oxygénothérapie pendant 6 jours. C'est déjà 3 jours qu'il est réveillé, mais pas normal. Les médicaments, ce sont des antibiotiques et du lait thérapeutique introduit par la sonde.
Depuis décembre, les centres dédiés à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère ont enregistré une très forte hausse des admissions. Une situation qui s'explique en partie par la saison. Dans le Grand Sud, nous sommes en pleine période de soudure. Les stocks de nourriture sont quasi épuisés dans les campagnes et la prochaine récolte n'aura pas lieu avant début mai. Mais de grosses zones d'ombre subsistent. Si l'on compare à l'an dernier, à la même période, le nombre d'enfants admis a presque doublé sans que l'on comprenne encore pourquoi. Aujourd'hui, 7560 enfants sont sous traitement d'urgence, alors même que les budgets des bailleurs traditionnels de la lutte contre la malnutrition dans le Grand Sud ont été brutalement divisés par deux en quelques semaines. Et ce qui alerte encore plus le corps médical, ce sont les changements observés chez la patientèle. Même s'ils restent majoritaires, les habitants de la Brousse ne sont plus les seuls à être touchés par cette pathologie. De plus en plus de petits citadins, comme Félix, viennent remplir les crénies.
Il y a aussi des malnutritions aiguës parce que les gens ils ne veulent pas fréquenter l'hôpital. Ils préfèrent aller ailleurs par les charlatans. Puis après, si le traitement des charlatans n'a pas réussi, les maladies s'aggravent.
L'UNICEF, premier partenaire international dans la lutte contre la malnutrition dans le Grand Sud, mène actuellement une enquête nutritionnelle pour tenter de déterminer les causes de ces évolutions inquiétantes. Sarah Detto, de retour de Tuléar, RFI.
L'UNICEF, comme bien d'autres organisations présentes à Paris à l'occasion du sommet mondial sur la nutrition que vous avez pu suivre sur RFI, beaucoup de questions autour du financement. Charlotte Cosset, ma collègue du service économie, a pu rencontrer Alvaro Lario, le président du FIDA, le Fonds international de développement agricole, fondé en 1977. Sa mission, soutenir le développement agricole et rural dans les pays en développement.
Alvaro Lario, bonjour.
Bonjour.
Le monde agricole évolue dans un contexte difficile actuellement, baisse des aides budgétaires, fermeture de l'USAID. Est-ce que vous, au FIDA, vous en voyez les impacts et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets?
Thank you very much and thank you for having us. So at the IFA, at FIDA in French, we are currently.
Le FIDA est un fonds d'investissement qui travaille sur les causes profondes de la pauvreté et de la faim dans les zones rurales. Les récentes coupes budgétaires ont eu un impact considérable sur le plan humanitaire en matière de vaccination.
Huge impact on humanitarian, on vaccinations. For us, we are a financial institution.
En tant qu'institution financière, nous disposons actuellement de financements alternatifs pour poursuivre nos opérations. L'impact pour nous n'est donc pas très élevé. Mais nous constatons que de nombreux partenaires souffrent, surtout dans l'humanitaire, et que de nombreuses vies seront malheureusement perdues à cause de ça.
Comment vous compensez les impacts de ces coupes budgétaires et de la baisse de manière générale des aides publiques au développement?
For us, this means probably that we also need to continue evolving in how we support.
Nous devons faire évoluer notre façon de mener des investissements avec le secteur privé. Ces dernières années, nous avons obtenu 2 notations de crédit, donc nous émettons désormais des obligations achetées par des fonds de pension. Et puis, nous co-investissons avec le secteur privé. Il sera donc crucial à l'avenir que des institutions comme la nôtre, ou les banques publiques ou multilatérales de développement, développent un modèle économique où leurs fonds ne se contentent pas de financer, mais servent de catalyseur pour mobiliser le secteur privé.
We will also need governments to step in and
les gouvernements doivent aussi intervenir pour réguler et mobiliser les secteurs privés nationaux, faciliter les investissements des micro, des petites et des moyennes entreprises. C'est crucial.
From the micro, from the small and medium enterprises. At this moment in time, that will become even more important.
Et justement, comment on incite le secteur privé à investir dans l'agriculture?
Well, for institutions, for us, this means, for example, developing partial credit guarantees.
Pour nous, il s'agit par exemple de développer des garanties de crédit partiel, créer des plateformes pour prendre le premier risque, puis le secteur privé investit. Quand on pense au secteur privé dans l'alimentation ou la sécurité alimentaire, on pense aux grandes multinationales. Mais l'important, dans bien des cas, est de créer des emplois et de mobiliser des fonds, non seulement pour les jeunes qui produisent, mais aussi pour la distribution, le stockage, l'exportation et la commercialisation.
There's a lot of local jobs that can be created, which will also have an impact.
De nombreux emplois locaux peuvent être créés, ce qui permet de réduire les migrations forcées et la pauvreté, notamment dans les zones rurales des pays les plus pauvres.
Ça veut donc dire engager plus les petites entreprises locales, le secteur privé local.
Exactement. What we are looking for is ways of really trying to develop the local private sector when.
Nous cherchons à développer le secteur privé local, alors qu'on ne parle que de l'aide publique au développement. Mais son montant global est très faible comparé aux fonds investis par le secteur privé. Dans l'agriculture, les investissements de l'aide publique au développement se situent entre 10 et 15 milliards de dollars par an, alors que les investissements du secteur privé dans les systèmes alimentaires se chiffrent en milliers de milliards. La différence est considérable. C'est pour cela que nous devons soutenir, promouvoir ces investissements par tous les moyens possibles.
On parle beaucoup du secteur privé, mais les acteurs publics ont eux aussi un rôle à jouer. L'accord de Malabo prévoyait 10% des budgets des États à investir dans le secteur agricole. On en est encore loin. Qu'est-ce qui se passe? Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour engager les États dans cette démarche?
La déclaration de Malabo prévoyait que jusqu'à 10% des budgets nationaux soient investis dans l'agriculture. Cela n'a pas été fait, on le sait. Mais malgré les divergences de vues, nous cherchons à progresser. De nombreux chefs d'État africains ont compris qu'il était absurde de dépendre actuellement de pays qui produisent du riz ou du blé situés à plusieurs milliers de kilomètres.
On their production of rice or their production of wheat.
Ils commencent donc à réfléchir à l'autosuffisance alimentaire. En Europe ou aux États-Unis, nous le faisons depuis de nombreuses années. La sécurité et l'autosuffisance alimentaire commencent à devenir une question de sécurité nationale.
And rightfully so, because it's not that every country needs to produce everything.
Et à juste titre, il n'est pas nécessaire que chaque pays produise tout. Il y a des chocs externes, notamment climatiques. C'est donc important de viser un certain degré d'autosuffisance alimentaire.
In many of these countries.
Ça, c'est un apprentissage qui a été fait suite à la guerre en Ukraine, suite à la guerre avec les outils, par exemple.
Certains de ces chocs, comme pour le blé et le riz, ont eu un impact sur les prix alimentaires mondiaux, sur les populations et donc sur les réserves de change de ces pays.
I think it's important that also many of these countries. Do not only focus on the three main staples.
Il faut donc éviter d'être dépendant de ces denrées de base. Il y a aussi des cultures comme le sorgho et le millet qui sont en fait plus nutritives et pourraient être cultivées localement.
That actually are more nutritious and that could really be produced in this country. So it's not only the quantity of food, but it's also the.
Il ne s'agit donc pas seulement de la quantité de nourriture, mais aussi de son accessibilité. La nourriture doit être abordable, disponible et diversifiée, avec des cultures plus nutritives.
More nutritious crops.
À l'occasion de ce grand sommet, le Brésil est mis en avant. C'est un pays qui est un très gros producteur. Est-ce que c'est un modèle que vous préconisez, vous, au sein du FIDA?
We work with Brazil. However, Brazil has a lot of also.
Nous travaillons avec le Brésil où il y a beaucoup de disparités. Dans le sud du pays, on trouve de nombreuses grandes entreprises agroalimentaires qui exportent dans le monde entier. Alors que là où nous investissons, dans le nord-est et en Amazonie, il y a de nombreux petits producteurs qui vivent dans des conditions très difficiles et n'ont pas accès au financement ni aux technologies.
Do not have access to the financing and to the technology. So even in the same country, having said that,
Cela dit, l'année dernière, lors de la présidence brésilienne du G20, l'accent a été mis sur la sécurité alimentaire, les communautés marginalisées et l'agriculture familiale. C'est crucial, car une personne sur 10 dans le monde souffre encore d'insécurité alimentaire et de pauvreté. Et cette situation est préoccupante.
Beaucoup de grandes entreprises agroalimentaires du Brésil utilisent les OGM, beaucoup d'engrais, d'intrants, c'est de l'agriculture extensive. Est-ce que c'est un modèle que vous préconiseriez dans le cadre du développement agricole en Afrique ?
C'est important de diversifier les cultures. Je pense que le modèle basé sur les très grandes entreprises agroalimentaires n'est pas toujours résilient. Par exemple, nous le voyons avec l'Ukraine qui veut reconstruire son agriculture et soutenir ses petits agriculteurs. Diversifier son agriculture permet des économies d'échelle. Il est également essentiel que même les grandes exploitations produisent de façon durable et respectueuse de l'environnement, compte tenu de leur consommation d'eau et de la dégradation des sols. Il faut soutenir collectivement les petits agriculteurs pour qu'ils produisent de façon durable.
Le FIDA est actif dans plus de 90 pays, parmi eux Madagascar, qui fait face à de grosses difficultés alimentaires. Quel type de projet vous y soutenez ?
Well, in Madagascar, we work mostly in the south of Madagascar. I have visited a lot of projects there.
À Madagascar, nous travaillons principalement dans le sud. J'ai visité de nombreux projets, même s'il n'y a pas beaucoup de routes goudronnées.
There's not a lot of roads for us. It's very important to create among the smaller communities the ability.
Il est essentiel de développer le commerce au sein de petites communautés, par exemple en créant de petits élevages de poulets.
Chicken farms. Ability of really being resilient to climate.
La résilience climatique passe par l'accès à l'eau. J'ai vu que les filles doivent malheureusement marcher 3 à 5 kilomètres le matin pour aller chercher de l'eau. Elles mettent 2 heures.
They spend 2 hours. Access to markets, that means also building tertiary roads.
Il faut construire des routes secondaires pour pouvoir vendre ces produits.
But when you see the impact there, it's one of the highest impact.
L'impact de ces projets est énorme. Ça change des vies, ça donne une chance à des personnes qui autrement n'en auraient aucune.
Many of the young people that I've seen there.
Beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés m'ont dit que sans ces investissements, ils ne pourraient pas envoyer les enfants à l'école ni les nourrir.
So I think that the highest impact.
C'est particulièrement vrai dans ces pays touchés par les chocs climatiques avec des situations très fragiles.
Have a lot of fragile situations.
Alvaro Lario, merci.
Merci beaucoup.
Alvaro Lario, le président du FIDA, au micro de Charlotte Cosset du service économie de RFI. Dans un instant, notre entretien avec l'industriel belgo-congolais Georges Arthur Forest, juste après Kingongolo Kinyata, un groupe de Kinshasa, sur la playlist de RFI.
Le
s'est quitté. C'était Kingongolo Kinyata sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, chaque samedi à la radio, 10h10, temps universel, à tout moment sur les plateformes de réécoute. Et puis, en vidéo, sur la chaîne YouTube de RFI, nos invités de l'économie, des entretiens approfondis avec des personnalités qui commentent les grandes évolutions de notre monde. Ces dernières semaines, nous avons reçu Thierry Breton, Stanislas Zézé, Amadou Hott et encore plus récemment, Georges Arthur Forrest, une figure incontournable de l'économie en République démocratique du Congo, de nationalité belge, né à Lubumbashi il y a 85 ans. Il dirige encore aujourd'hui un groupe familial actif dans de nombreux secteurs dont la construction, le génie civil, l'énergie et l'agroalimentaire. Georges Arthur Forrest publie un ouvrage aux éditions du Cherche Midi, « L'Afrique peut nourrir le monde ». Il s'en est expliqué dans un entretien que j'ai mené avec Julien Clémenceau, chef du service économie de RFI et dont voici de larges extraits. Bonjour Georges Arthur Forrest.
Bonjour Monsieur Faure.
Votre groupe produit de la viande, du maïs, du blé, du soja, des biscuits aussi. Vous dites que le Congo a tout pour être autosuffisant. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le manque de transformation locale, tout simplement?
Effectivement, d'abord, il manque beaucoup d'entrepreneurs pour développer l'agro-industrie. Pour le moment, vous avez beaucoup de petits champs faits par les cultivateurs. Mais ce n'est pas ces 2-3 hectares à gauche, à droite qui vont produire. Il faut des grandes plantations avec des investissements relativement importants. Et il faut également une stabilité juridique. Il faudrait aussi que le code de l'agro-industrie soit redéfini. Et à ce moment-là, vous allez attirer beaucoup d'investisseurs. Le Congo est encore vierge. Il n'y a pas grand-chose.
Ça veut dire que les dirigeants politiques ont aussi leur part de responsabilité dans ce retard, si le cadre juridique n'est pas là, si on n'a pas réussi à attirer des investisseurs?
Tout à fait. Chacun a son rôle, aussi bien le politique que les investisseurs. Il faut que les deux se combinent, se mettent ensemble pour arriver à une solution.
Mais l'impulsion, elle vient quand même des dirigeants politiques, non?
L'impulsion doit venir des dirigeants politiques, certainement. Mais il faut aussi que on octroie des terres et qu'on permette à des étrangers de venir et développer le pays. Même en partenariat avec des locaux, mais ne pas donner 51% au départ.
On parle de la RDC. Vous dites que l'Afrique peut nourrir le monde. Quelles régions de l'Afrique peuvent nourrir le monde en particulier?
Mais vous savez,
est-ce que votre Afrique centrale ou est-ce qu'on doit réfléchir aussi à d'autres régions de l'Afrique?
Non, l'Afrique centrale est privilégiée à cause de son réseau hydrographique et des saisons des pluies. Mais toutes les régions ont leur spécificité pour se nourrir ou faire des plantations et développer la culture. Dans un pays comme le Sénégal et d'autres, ils ont eu dans le temps des plantations qui étaient typiques à eux, qui malheureusement, dû à la colonie, on a posé d'autres aliments comme le riz et le pain, or qu'ils mangeaient autre chose et qu'ils s'autosuffisaient. Pourquoi ne pas revenir aussi à ces plantations de base, qui est la nourriture de base et traditionnelle?
Parmi vos modèles, un pays comme le Brésil, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de produits agricoles, avec un modèle industriel, des exploitations de milliers d'hectares dopées aux produits phytosanitaires, est-ce que c'est la voie que doit suivre la RDC?
Oui, ce sont ce genre de plantations qu'il faut faire pour développer le pays. Effectivement, d'abord aujourd'hui, le Brésil, quand vous voyez, il est autosuffisant, il exporte pour presque 50 milliards de dollars d'exportation. C'est quand même fabuleux. Or que les terres au Congo, en Afrique, sont encore plus riches et plus vierges que celles du Brésil. Donc on a beaucoup moins besoin d'engrais que le Brésil.
Le Brésil, le modèle brésilien, donc on peut le saluer parce qu'il est très productif, mais il pose des questions aussi environnementales. Est-ce que ça, vous avez le sentiment que la science ou les qualités naturelles de la RDC peuvent faire qu'on va utiliser moins de produits phytosanitaires?
Certainement, oui. Et vous avez beaucoup plus d'espace cultivable que sans devoir déboiser trop, sans nécessairement toucher aux grandes forêts.
Donc un modèle encore plus extensif.
Plus extensible et plus positif, point de vue développement agricole.
Alors il y a pas mal de questions foncières aussi qui se posent dans ce développement de l'agriculture. Il faut sécuriser la propriété foncière. Est-ce que vous trouvez que la RDC a suffisamment avancé dans ce sens-là?
Mais c'est la raison, je disais, il faut revoir la loi agricole pour permettre aux investisseurs de mieux se protéger, point de vue possession des terres.
Aujourd'hui, on est en danger en RDC. En tout cas, il n'y a pas de sécurité pour un investisseur dans l'agriculture en RDC.
Non, parce qu'il ne peut pas. S'il vient, il va devoir céder sa, la majorité. Il n'y a pas aucun investisseur qui va céder la majorité s'il doit investir. Il va vouloir garder le contrôle de son investissement et de sa production. Donc, il faut permettre et encourager les gens à venir et à se développer, quitte à prendre un partenaire congolais à un moindre pourcentage, à 20-25%, personne ne va discuter.
Alors, si on arrive à cette solution, c'est-à-dire si un investisseur étranger peut investir et garder le contrôle, va se poser aussi à terme la question de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, parce que le modèle que vous proposez, il est très intensif en capital, et donc les capitaux vont venir de l'extérieur. Vous dénoncez, vous, une dépendance aux investisseurs étrangers dans les mines. Est-ce qu'on ne risque pas de reproduire cela dans l'agriculture ?
Non, parce qu'il faut obliger à transformer les produits localement.
Donc à garder plus de valeur ajoutée sur le sol congolais.
Toutes les valeurs ajoutées sur le sol congolais. Notre objectif, nous autres, nous faisons de la terre aux produits finis localement. Importation zéro. Par exemple, dans nos biscuits, nous limitons les importations. C'est pour ça que nous faisons le blé et autres. Mm-hmm. Donc il faut absolument, et dans l'agriculture, il est beaucoup plus facile que dans les mines. Les mines, ça demande des milliards. Dans l'agriculture, ça demande des dizaines, centaines de millions. Mm-hmm. Donc il y a déjà une autre échelle de valeur dans l'investissement.
Et c'est valable d'autant plus dans un contexte de guerre commerciale qui s'annonce à l'échelle mondiale. On voit par exemple que, d'un point de vue agricole, la Chine a anticipé une possible guerre commerciale avec les Américains et a diversifié ses sources d'importation. Ça aussi, l'Afrique doit y réfléchir.
Tout à fait. L'Afrique doit aussi réfléchir et l'Europe doit y réfléchir aussi parce qu'en fait, le meilleur partenaire et le partenaire traditionnel de l'Europe, c'est l'Afrique. Alors quand on voit maintenant avec la politique des États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe est occupée d'être isolée. Alors pourquoi ne pas essayer de revenir vers l'Afrique ?
On va revenir sur cette question. Créer des grandes fermes sur des milliers d'hectares, voire des dizaines de milliers d'hectares, hein, comme ça existe en Ukraine par exemple, ça veut dire aussi des expropriations. Peut-être des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'expropriations. Comment on gère ces questions extrêmement épineuses ?
Vous savez, il ne faut pas exproprier nécessairement les gens. Il faut travailler avec les locaux, les villageois qui sont là, essayer de les incorporer dans votre investissement, leur permettre aussi de se développer localement avec vous, sans les expulser. Non, il faut travailler en partenariat.
C'est ce que vous faites, vous, avec le groupe Forest.
Tout à fait.
Vous avez des exemples récents
oui,
là,
tout à fait.
De partenariats
qui ont été montés. Nous aidons les villageois qui sont autour de nous pour se développer également. D'un côté, ils sont contents. En même temps, ça nous protège parce qu'ils ne viennent pas voler nos produits. Et d'un côté, se développer aussi.
Alors, parmi les autres défis pour développer l'agriculture en RDC et plus largement en Afrique, il y a le désenclavement de certaines régions. C'est particulièrement vrai pour un pays aussi grand que la RDC. Construire des routes, des voies de chemin de fer, ça demande des dizaines de milliards d'investissements. Est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui ? Sans doute pas à l'intérieur des frontières de la RDC. Où est-ce qu'il faut les trouver ?
Vous savez, il manque d'infrastructures. C'est important également les infrastructures pour l'évacuation. Je crois que ça, c'est le rôle également de l'État de bien planifier son développement du point de vue infrastructure. Réhabiliter les routes, pas nécessairement avec du bitume, mais progressivement arriver après à bitumer les routes. Mais si on peut retracer les voies pour permettre de passage normal de véhicules, on peut développer un pays complètement. Il n'y a pas de problème.
Oui, mais sur la question du financement. Où est l'argent pour ces infrastructures ?
Mais on peut trouver des solutions, comme faire trouver des financements en privatisant certaines choses, pour faire les péages, par exemple. Des groupes peuvent venir dire, nous, on privatise tel morceau de route, on prend le péage en charge, point du remboursement. Quoi.
Et ça, les Congolais ont les moyens de payer des péages, ou c'est des péages réservés plutôt aux entreprises, au transport commercial ?
Non, il y a déjà des routes qui sont à péage au Congo, comme des grands axes qui sont à péage.
Et bon, ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien.
Le corridor de l'Obito, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui part de la Zambie, enfin en tout cas de cette zone de l'Afrique, pour atterrir ou amerrir dans l'océan Atlantique. Pour vous, c'est un exemple, en tout cas, c'est une initiative vraiment urgente.
Elle est importante, certainement, parce que ça permet une évacuation plus rapide, plus courte et moins chère. Or, que si vous reprenez, c'est le même chemin qui se passait avant l'indépendance, au temps de la colonie, c'était le chemin pour évacuer les minerais. Et même la Zambie évacuait ses minerais par là. Donc c'est un plus pour le pays aussi, parce que le droit de passage était payé au Congo. Or, aujourd'hui, on paye en Zambie, on paye en Afrique du Sud, on paye en Tanzanie ce droit de passage. Le chemin est plus long. Ici, vous raccourcez quand même de plus de 1000 km de route.
Il y a un enjeu énergétique aussi très fort. Ce fameux projet de barrage Inga 3, qui prend un peu de temps à se matérialiser. Est-ce que vous y croyez ? Il y a aussi en RDC beaucoup de projets dans le solaire. Est-ce que l'hydroélectricité, c'est plutôt l'avenir ? Ou est-ce que le solaire, c'est la priorité ?
Je crois que les deux sont prioritaires. Mais faisons des petits barrages entre 50 et 120, 150 mégawatts. On peut les faire un peu partout et ça coûte moins cher.
Pas la peine de faire des barrages de plusieurs milliers de mégawatts ?
Non, après, on peut le faire si on veut pour un autre développement. Mais le pays a suffisamment de cours d'eau pour faire des petits barrages qui coûtent moins cher et qu'on peut distribuer de plus en plus d'énergie partout. Le solaire également. Le solaire est intéressant, on a un soleil en permanence. Pourquoi pas profiter ? Mais le solaire reste encore assez cher malgré tout à la consommation.
Vous gagnez de l'argent avec ces projets dans le solaire ? Pas vraiment.
Pas vraiment. Mais bon, dans un futur, oui, mais c'est l'objectif. Il faut toujours avoir un objectif et un rêve. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne faites rien.
En parlant de rêve, on se projette à 20 ans. Donc le Congo, on l'a dit, ne manque pas de grands projets transformateurs. On a évoqué Inga 3. On peut évoquer même un corridor qui serait purement congolais, qui partirait de Lubumbashi et qui arriverait au futur port de Banana sur la côte atlantique. On peut parler du pont, peut-être plus simple, mais à la fois très compliqué, entre Brazzaville et Kinshasa. Parmi ces trois projets, lequel a le plus de chances de se concrétiser à court terme ? Enfin, à court et moyen terme.
Dans court et moyen terme, c'est difficile à dire. Mais le plus important pour le pays, c'est celui qui partira du Katanga, certainement vers le port de Banana. Plus économique et plus intéressant pour le pays. Et je crois que c'est ça qu'il faut donner la priorité, plutôt que le pont de Brazzaville.
Ah bon, plutôt que le pont de Brazzaville.
Pour le pont de Brazzaville, qu'est-ce qu'il apporte ?
Il apporte un lien plus étroit avec son voisin, qui est peut-être un petit voisin. C'est un trop petit voisin ?
Mais non, le lien existe déjà parce que le fleuve, sans arrêt, on le traverse. Donc il n'y a pas beaucoup plus de... Quel est l'avantage de traverser par un pont que par le...
Ah ben vous avez un trafic beaucoup plus important.
Et qu'est-ce que ça rapporte ?
Pas assez, en tout cas.
D'un point de vue économique. L'entrepreneur belgo-congolais, on peut dire ça comme ça, Georges-Arthur Forest, est notre invité sur Radio France Internationale.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
On va reparler des États-Unis avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Et l'une des conséquences, la fin ou la suspension de l'aide américaine en Afrique, USAID, est-ce que c'est un drame pour l'Afrique ou est-ce que, comme pas mal de gens le disent aussi, c'est... les Africains vont se débrouiller par eux-mêmes.
C'est un drame et un bien. Un mal parce que la population a besoin de cette aide. Et parce que malheureusement, toutes ces aides qui sont données n'ont rien appris au pays. C'est de l'aide. Qu'est-ce que ça apporte de l'aide ?
Donc c'est dans le domaine de la santé, parfois, c'est indispensable.
Dans le domaine de la santé, mais aussi, il faut former les gens. Il faut les former, il faut créer des hôpitaux, il faut créer des choses localement. Pas toujours venir en support et en aide. Vous ne développez pas quelqu'un. Un pêcheur, si vous ne l'apprenez pas à pêcher, comment il va pêcher ? Non, c'est ça qu'il faut faire. Or que, d'un côté, cette suppression de l'USAID, pour moi, est une bonne chose également. Ça va obliger les pays à faire l'effort de se prendre en charge et de se développer.
Est-ce qu'il y a des secteurs qui échappaient aux investissements privés et où ça devrait changer ? La santé, par exemple, est-ce que les entreprises étrangères devraient investir dans la santé en Afrique ?
Moi, je pense que chaque société qui investit, chaque entrepreneur qui investit en Afrique doit aussi faire du social, doit redistribuer une partie à la population, ce que nous avons toujours fait. Ça a été notre éducation.
Autre fait d'actualité lié d'ailleurs au retour de Donald Trump, la possible fin de la guerre en Ukraine. Hein, je parle vraiment au conditionnel et sans donner de délai. Est-ce que là aussi, c'est une bonne chose pour l'Afrique et notamment dans le domaine alimentaire, hein, il y a une crise sérieuse depuis 2022 dans le secteur des céréales.
Ce serait une bonne chose parce que bon, l'Afrique importe beaucoup. Parce que 11 milliards de dollars d'importation de blé et d'autres, en provenant surtout de Russie. Mais une paix permettra de nouveau une importation beaucoup plus ouverte et plus saine qu'aujourd'hui, c'est difficile. Elle coûte plus cher, ça diminuera les prix aussi. Donc c'est un avantage. Mais l'Afrique devrait aussi maintenant essayer de développer aussi ses propres produits. Nous avons essayé, nous à Ego Congo, nous avons essayé le blé, personne n'y croyait, mais ça marche. Et on a un très bon blé, donc pourquoi pas.
Vous êtes aussi le plus important producteur de viande de RDC. Par le passé, vous avez été le plus important producteur de ciment de RDC. Les monopoles en économie, est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier? Est-ce que le fait d'avoir comme ça des entrepreneurs qui dominent complètement un marché, c'est une bonne chose pour l'économie du pays?
Non, parce que d'abord, quand on revient aux cimenteries, il y avait quand même des prix qui sont fixés par l'État. Le prix de vente et de marché était une collaboration entre l'État et le producteur. Donc le prix était fixé, on ne pouvait pas imposer le prix qu'on voulait. Au contraire, si j'ai dû vendre mes cimenteries, c'est parce que l'État avait permis des importations hors taxes, hors droit d'entrée et tout. Donc on ne savait plus concurrencer. Donc ça devenait difficile. Et en fait, ils nous ont fait ça pour nous obliger à vendre les cimenteries, parce que l'État, à un moment, estimait que nous devenions trop forts et trop puissants dans un ensemble économique du pays.
Est-ce que c'était pas un peu le cas? Parce que vous aviez à un moment donné, je crois, 70% du marché.
Oui, mais enfin, on ne profitait pas de ce monopole. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai toujours été pour la concurrence. Et quand j'ai été président de la GECAMINE, c'est moi qui ai ouvert le partenariat. Or que j'étais dans les mines. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais moi, j'ai pas peur de la concurrence. Plus il y aura la concurrence, plus on est stimulé.
Alors justement, les mines, un secteur qui a beaucoup évolué ces dernières décennies. Vous avez été un acteur important. Comment est-ce que vous jugez l'apport des entreprises dans ce secteur au développement de la RDC? Vous avez dit tout à l'heure, il faut arrêter de trop compter sur les mines pour rapporter de l'argent.
Mais aujourd'hui, il n'y a que les mines qui, en grande partie, rapportent le plus au pays. C'est un fait certain. Mais il faut maintenant demander aux miniers de pouvoir faire de valeur ajoutée sur place aussi et pas exporter tout. Et ça, on devra obliger les miniers à le faire.
Les miniers vont vous répondre, sans infrastructure, c'est difficile et ça ne va pas me rapporter d'argent.
Je dis, mais comment ils exportent leurs produits? Sur base de quelle infrastructure? Donc, ils peuvent faire les produits.
Mais il y a notamment l'accès à l'électricité qui est important quand on transforme.
Oui, l'accès à l'électricité, mais c'est ça que je dis. Il faut développer des plus petites centrales avec eux et leur donner un avantage sur le tarif énergétique. Et on peut y aller en avant, comme ça se fait maintenant aussi.
Est-ce que vous trouvez que l'État congolais fait du bon travail en essayant d'interdire justement les exportations? Est-ce que c'est un bon signal à envoyer aux entreprises?
Oui, ça, c'est sur le cobalt qui a beaucoup baissé. Et donc l'État a prononcé une interdiction d'exportation de 4 mois. Et puis ensuite, réfléchi à une politique de quotas. Mais néanmoins, tout le monde a été surpris par cette décision.
Oui, effectivement. Vous savez, c'est une politique de protection aussi. Si on veut faire monter le prix, vous bloquez.
Donc, mais si vous débloquez, il baisse.
Vous baissez. Donc il faut le faire d'une façon progressive, intelligente, donner un quota dès le départ. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas bloqué de suite. J'aurais dit, voilà, on diminue l'exportation à tel tonnage, et puis on verra la réaction du marché sans la brusquer, parce que c'est toujours mauvais de brusquer un marché.
Les investisseurs chinois, on le sait, sont historiquement présents dans les mines en RDC. Vous avez souvent critiqué cette présence chinoise. Est-ce que c'est une bonne chose que la RDC se rapproche des États-Unis avec un accord sur les minerais?
Vous savez, pourquoi j'ai critiqué les investissements chinois? Parce que les Chinois arrivent, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils prennent tout. Même ils apportaient la main-d'œuvre, parce que la majorité de la main-d'œuvre, c'est des Chinois. Vous retrouvez les Chinois partout. Et en plus, ils ne font pas les valeurs ajoutées sur place. Tout se fait en Chine. Il n'y a aucune aide côté social, il n'y a pas grand-chose. Les Américains viennent avec un esprit qui est déjà différent. On est plus proche de nos autres points de vue culture. Donc les Américains vont, s'ils viennent, et ils étaient déjà sur place. Ils ont vendu l'une de leurs mines, la plus belle mine qui est Tenkefongromé, aux Chinois. On n'a jamais compris pourquoi. Mais ils développaient d'autres activités autour. Également, ils faisaient du social, il y avait des écoles, des hôpitaux, tout ça. Et c'est un autre environnement qui est beaucoup plus sain. Il y a plus d'éthique. Tandis que les Chinois, comme d'autres pays, il n'y a pas d'éthique.
Quand vous dites ça, ça veut dire que les institutions ou les gouvernements n'arrivent pas à faire respecter les règles du jeu? Est-ce qu'en RDC, peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est la loi du plus fort?
Vous savez, dans tous les pays, la loi du plus fort est là. Mais il faut essayer de limiter ça.
Et je crois que plus l'État est fort, a priori, plus les entreprises sont quand même cadrées.
Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour qu'un État soit fort, il faut des investisseurs aussi. Plus il y aura des investisseurs, plus l'État sera fort. Parce qu'il aura les moyens aussi de sa politique et de se développer. Aujourd'hui, il se développe sous base de quoi ?
Mais ça veut dire qu'il ne faut pas trop embêter les investisseurs ?
Non, il faut demander aux investisseurs de respecter les lois et les règles. C'est ça, oui. Mais les laisser travailler et ne pas les embêter par toutes sortes de tracasseries inutiles.
RFI, les voix du monde.
Georges-Arthur Forest, on va poursuivre notre conversation et on va parler de vos relations en tant que chef d'entreprise, en tant qu'acteur important de l'économie congolaise avec justement les dirigeants politiques.
Oui, vous avez rencontré, travaillé avec de nombreux hommes politiques congolais, hein, de Joseph Kasaoubou à Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila, puis son fils. Est-ce que c'était naturel, indispensable pour le patron que vous étiez de les fréquenter ?
Vous savez, quand vous occupez une position importante économiquement, il est normal que vous fréquentez les autorités. Je pense que même en Europe, ça se fait. Donc, je ne vois pas là où est l'anomalie d'avoir eu des relations et des contacts avec eux. Du moment que nous faisons nos contacts étaient purement économiques et pas dans un intérêt autre.
Mmh. Il y avait de l'amitié parfois ?
Forcément, à un certain moment, il y a de l'amitié qui se lie. Ça, bien sûr. Mmh. Mais c'est une amitié désintéressée.
Mmh. Mmh. Vous avez été décoré par l'actuel président Félix Tshisekedi. C'était en 2022, décoré grand cordon de l'ordre des héros nationaux. Est-ce que pour vous, c'était un moment important dans votre carrière ?
Certainement, oui. Ouais. C'est un honneur et une fierté également de recevoir. C'est la plus haute distinction du pays quand même, qui est très peu donnée. Je crois que c'est un des rares à l'avoir et peut-être un des rares blancs, même congolais, à l'avoir eu.
C'était à l'occasion du centenaire du groupe Forest. Comment vous jugez l'action du président Tshisekedi par rapport à ses prédécesseurs ?
D'abord, il a un autre esprit. C'est un homme très ouvert. Personnellement, il veut faire les choses, mais il a un entourage qui n'est pas toujours simple. Et souvent, c'est là la faiblesse de nos chefs d'État, c'est leur entourage. Je crois que lui, personnellement, a la volonté de développer le pays et que les choses marchent.
Vous avez, on l'a dit, fréquenté de nombreux hommes politiques et hommes de pouvoir congolais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, ces hommes-là, quand ils vous rencontrent ? Quelles sont leurs demandes ?
Parfois, ils me demandent ce que je pense, comment je vois l'avenir, comment développer le pays. Voilà, on parle souvent de problèmes économiques, que pense la population. Moi, je leur parle franchement.
Ils vous demandent aussi de financer des élections, par exemple. Il me semble que vous avez reconnu avoir financé des élections dans des campagnes, je vais dire, dans plusieurs camps. Est-ce que c'est une demande naturelle vis-à-vis d'un homme d'affaires important ?
Vous savez que toutes les sociétés au Congo l'ont fait à un moment. C'est, d'abord, la loi l'autorise. C'est presque même une sorte d'obligation. C'est un peu comme aux États-Unis. Mais depuis, on ne le fait plus non plus parce que c'est...
Vous ne le faites plus ?
On ne le fait plus.
On parlait de Joseph Kabila, puis de Félix Tshisekedi. Vous avez souvent dénoncé la corruption de la deuxième partie, deuxième mandat de Kabila. Est-ce que vous avez l'impression que Félix Tshisekedi fait mieux ? Vous parliez à l'instant de l'entourage, c'est difficile. Est-ce qu'il y a un mieux à ce niveau-là ? Le mot corruption, dans votre ouvrage, il revient à de nombreuses reprises sur la fin.
C'est le drame un peu de... C'est la faiblesse du pays aussi. C'est cette corruption qui est partout, qui freine certains développements. C'est pour ça que je parle et que je dis qu'il faut une sécurité juridique certaine pour pouvoir développer le pays, même si le président a la bonne volonté, mais seul, il ne sait pas tout faire.
Il y a des affaires récemment qui vous ont choqué encore ?
Vous savez, il y a toujours des choses qu'on regarde et qu'on observe.
Vous ne voulez pas les partager, là, peut-être ?
les hommes d'affaires ont aussi forcément une responsabilité hein, dans ce climat. Il y a certes le cadre juridique, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Quel est le rôle d'un homme d'affaires dans ce problème-là de la corruption ? Je ne parle pas qu'en RDC, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est un peu partout, même en Europe. Hein.
C'est un phénomène qui...
Ça n'exclut personne.
Il existe ailleurs, mais est-ce que les hommes d'affaires doivent être à l'initiative, doivent créer des cadres dans leurs entreprises ?
Mais nous avons des cadres chez nous, nous avons toute une éthique, nous avons la bonne gouvernance, nous avons un comité de bonne gouvernance dans le groupe, qui est dirigé par une Suissesse, d'ailleurs, très stricte. Donc il n'y a pas à discuter. Mais je veux dire aussi là-dessus que l'Europe devrait aussi regarder l'Afrique d'une autre façon qu'elle le fait. Pourquoi voudrait-elle, et ça je reviens à un point de vue corruption, pourquoi voudrait-elle que l'Afrique marche exactement comme l'Europe, avec les mêmes règles et les mêmes conditions que l'Europe? Pourquoi ne l'impose-t-on pas en Asie, en Chine, en Inde, en Turquie, au Moyen-Orient? Mais on accepte certaines règles.
Vous parlez de quel type de règles, par exemple?
Mais par exemple, vous pouvez faire en Asie ou ailleurs, il y a des lobbying qui prennent certaines commissions pour des opérations. En Afrique, vous ne pouvez pas.
Donc il y a un paternalisme européen dans cette lutte contre la corruption, où on pointe le doigt plus facilement sur les Africains.
Parce que vous diminuerez la corruption. Parce que si vous laissez faire des choses sérieusement, limitées dans des règles tout à fait, peut-être guillemets comme ailleurs, on va limiter très fort.
Vous avez souvent, vous, pointé les banques européennes, dont vous dites que les règles trop strictes empêchent le développement du commerce et de l'économie, et donc ces règles font que les banques européennes se désengagent.
Tout à fait. Les banques européennes aujourd'hui chassent les résidents en Afrique et particulièrement au Congo de leurs banques. Alors comment voulez-vous aussi, d'un côté on dit on fait des missions économiques en Afrique ailleurs pour développer et investir, et puis les banques ne vous suivent pas.
Quand vous avez été cité vous-même ou votre groupe dans des rapports de l'ONU, quand vous avez été auditionné par le Sénat en Belgique suite à des soupçons dans des affaires de conflits d'intérêts ou ce genre de choses, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez vécu justement en tant que Congolais qui s'est senti injustement accusé, ou est-ce que vous vous êtes dit c'est normal et puis ça participe?
Non, on a été très choqués, c'est à fait certain. Si je n'avais pas la volonté ni le punch ni les moyens de me défendre, j'aurais été balayé de la carte. Mais ces accusations, pour finir, on a été blanchis, totalement. Aussi bien à l'ONU qu'au Sénat et partout.
Les accusations, l'ONU, c'était notamment avoir participé à la vente des diamants de l'UNITA.
Non. On avait été envoyé, consulté. À l'époque, c'était autorisé même par les Américains, par des banques qui nous avaient demandé. C'est une banque qui nous a demandé d'aller comme entrepreneur pour des diamantaires en Versoix, pour faire l'exploitation, montrer comment on pouvait exploiter correctement les mines. Et donc, on l'a fait. Mais pas dans le cadre de l'UNITA. C'était pour des banques et pour des miniers. Et c'était dans la légalité, je tiens à le préciser quand même.
Georges-Arthur Forest, le président du groupe Forest International, entretien à découvrir en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, dans sa version intégrale, où nous évoquons d'autres sujets comme les tensions entre la RDC et le Rwanda, les relations avec les anciens pays colonisateurs ou encore sa relation d'amitié avec Macky Sall, l'ancien président sénégalais au cœur de la polémique sur les dettes cachées et qui préface son livre « L'Afrique peut nourrir le monde » aux éditions Le Cherche Midi. Merci à tous de nous suivre. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité dans le monde.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.